disant, est-ce qu'ils vont revenir en vie le soir? Je dis ça, j'en ai un frisson à m'imaginer si j'avais à penser comme ça en allant à l'école porter mon fils comme je le fais à tous les jours. Alors elle dit que c'est insensé, il faut faire quelque chose pour contrer cette épidémie. Est-ce que ça va changer quelque chose? La question qui revient le plus souvent depuis que je fais de la chronique américaine, c'est est-ce que cette fusillade sera celle de trop? Et ma réponse est malheureusement non. Et on en a eu, je pourrais t'en nommer, Parkland, Sandy Hook, Columbine, Virginia Tech, il y en a à la pelletée. Et ça n'a rien changé.
Non, ça ne change rien. C'est quand même incroyable. Un si grand pays, une si grande puissance qui est incapable de protéger ses enfants. Il y a quelque chose dans tout ça qui est comme incompréhensible. Tout ça parce qu'on veut protéger le deuxième amendement, comme si les pères de la Confédération souhaitaient que 200 ans plus tard, des jeunes se préparent avec se présentent dans des écoles avec des armes d'assaut. Deuxième amendement, là, c'était pour se protéger contre l'envahisseur éventuellement. C'était pas pour attaquer ses concitoyens, ses concitoyennes.
On n'avait pas d'armes semi-automatiques avec des munitions illimitées et l'accès assez facile, même trop facile. Il y a des jeunes qui ont eu ça comme cadeau d'anniversaire, qui ont fait des fusillades. Au Michigan, c'est ce qui est arrivé.
Ouais. Et les parents se retrouvent en prison.
Oui, qui se retrouvent en prison pour ça. Est-ce que ça envoie un message aux parents, ça aussi, comme décision? Bien, le temps va nous le dire. Mais c'est un autre exemple d'une tragédie qui... on va en parler, ça fait partie des enjeux de la campagne électorale, mais je pense pas que ça va être non plus ça la question de l'urne.
Non, sûrement pas. Chicane de famille chez les Walls.
Oui, tu parlais de Témoins il y a un instant. Bon, Témoins qui est le coulissier, je rappelle, de Kamala Harris, qui est le gouverneur du Minnesota. On apprend à le connaître et tout ça. Et là, il y a une photo qui a refait surface et tout part de là. Une photo où on voit une partie de la famille Walls, la famille du Nebraska, qui décrit les Walls pour Trump. Alors, ils ont un chandail qui se sont fait faire avec une espèce de drapeau pro-Trump en arrière. Alors, ça circule beaucoup. C'est la famille éloignée de Témoins, mais quand même, c'est des membres de sa famille. Et il y a aussi son frère, Jeff Walls, si je ne me trompe pas, qui a fait une publication sur les réseaux sociaux où il disait qu'il était 100% contre les idéologies véhiculées par son frère. On sait qu'il a fait un don aussi à Donald Trump en 2016. Et là, ça a été repris. Lui, je pense qu'il était un peu naïf dans ce qu'il dit. J'ai écrit ça, j'aurais pas dû le faire. Je veux plus me mêler de la campagne. Il veut pas être utilisé pour ses propos. Il y a aussi un commentaire qu'il a fait en disant, ah, mais si vous saviez des histoires sur mon frère, peut-être que vous auriez une opinion différente. Mais finalement, les histoires en question, selon Jeff Walls, le frère, c'était des histoires que quand il était petit, il avait le mal des transports et il était malade sur ses frères et sœurs, sur les membres de la famille. Alors, on n'est pas
il
dans une...
Quoi?
Malade et le vomissait.
Ah, malade, vomissait. OK, vomissait sur
j'essaie
ses frères et sœurs.
J'essaie de trouver un mot plus...
Il peut clairement pas être vice-président des
États-Unis. J'essaie de trouver
là.
Un mot plus doux pour le dire. Alors, il dit que c'était ça, la fameuse histoire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce qu'il essaie de se racheter? Il dit aussi qu'il est déçu. Et ça, on peut peut-être comprendre qu'il n'a pas été prévenu que son frère allait être le coulissier de Kamala Harris, qu'il a appris à la radio, comme les membres de sa famille aussi. Il dit au niveau de la sécurité ou juste pour nous préparer, on aurait aimé le savoir, mais il a dit c'est la dernière fois que je vais commenter ça. Je ne me mêle plus de la campagne, mais le camp Trump qui utilise ça, bien sûr, pour faire de la publicité. On le voit à l'inverse aussi, hein? des candidats républicains où la famille dit « je suis pro-démocrate », font des publicités, sont dans les conventions. Tu le disais en tour de table, c'est comme coutume un peu.
Oui,
et autres,
c'est
même la tradition.
Dans la famille de Trump, il y en a même
Mary
deux
Trump,
qui ont écrit des livres.
Oui,
le fils, le cousin finalement de Donald Trump aussi.
Et sa nièce qui a fait, je pense qu'elle est rendue à son deuxième livre. Qui va sortir Mary. Alors qui a fait l'évaluation psychologique de son oncle.
Et elle est très active sur le réseau X également. Le passé d'un controversé candidat de la Caroline du Nord refait surface.
Oui, je ne sais pas si tu as entendu parler de Mark Robinson. Mark Robinson en Caroline du Nord, c'est un Afro-Américain qui a des propos très extrémistes. Il croit pas à l'Holocauste.
Il croit
pas à peu près plein de théories du complot. Le 11 septembre, c'est pas arrivé. La fusillade de Las Vegas qui avait fait des dizaines et des dizaines et des dizaines de morts, c'est aussi arrangé avec le gars des vues. Et il est le candidat pro-Trump, MAGA et tout ça. Et là, il se dit contre l'avortement et quelqu'un de très pieux près de Dieu que depuis les années 80, il a vu la foi, là, presque un Born Again et tout ça. Et là, il y a une histoire qui est sortie, puis on est un peu dans l'insolite, mais qui dit que finalement, dans les années 90, c'est cet homme qui travaillait dans une pizzeria, après tous ses quarts de travail avant de rentrer à la maison, allait dans un magasin de films pour adultes. et en consommait beaucoup, beaucoup, beaucoup à tous les jours, 5 jours semaine. Et lui, ce qu'il dit finalement, c'est que ça, c'est un péché, tout ça. Et là, il y a des gens, des clients qui l'ont fréquenté, des employés qui ont fait des sorties dans les médias. D'ailleurs, le New York Magazine a fait un article assez, je dirais, assez drôle là-dessus, où il dit, ben, autant il va démentir cette histoire de pornographie qu'il va démentir que l'Holocauste s'est déroulé. Alors, on verra s'il va être décrié, mais tu sais, c'est quand tu t'es en train de prêcher pour ta paroisse, c'est-à-dire ouais. que t'es plus blanc que blanc et que tu as tout fait de parfait dans sa vie. Là, dans un milieu ultra conservateur, ça ne passe pas très bien. Cette petite habitude qu'il a eue pendant des années, selon, bien sûr, différents reportages.
Merci beaucoup, Valérie. On se retrouve demain. Au retour, c'est la chronique économique de Michel Boisvert.
98.5, circulation.
Autoroute des Laurentides, du souvenir à Laval, véhicule en panne, voie de droite sur le pont de la rivière de Ménil. Également, c'est là entre Blainville et Mirabel, 13 sud Côte de Liesse, 13 nord avant Côte de Liesse, avant Dagenais à Laval, 25 Terrebonne avant Pineuf par intermittence. Décarie-Nord, on affiche presque complet, la 136 en direction est, on avait un véhicule en panne à la hauteur de la sortie Guy, voie de droite 40 ouest. C'est pas évident avec un accident, voie de gauche avant le pont de pont de l'île aux Tourtes, évidemment, c'est avant le secteur Morgan. Et 20 est, un peu avant le secteur de la 55. 5e avenue. Du beurre à un super bon prix à donner, c'est votre destination jusqu'au 4 septembre. Le beurre Lactantia, 454 grammes à seulement 4,99 $.
Linen Chest présente son solde de fin d'été. Jusqu'à 75% sur une sélection d'ensemble de literie et de draps infroissables. Épargnez 65% sur les oreillers et couettes en plumes et duvet Luxurious. 65% sur les verres Gusto et les ensembles de vaisselle 16 pièces Royal Dalton. 70% sur les batteries de cuisine 10 pièces Mayer et Enkels. Ainsi que 60% sur les petits électroménagers comme les friteuses à air Star Frit. Le solde de fin d'été est en cours chez Linen Chest. Hâtez-vous pour un meilleur choix.
Les résidences pour retraités Cogir vous accueillent à leur événement porte ouverte le dimanche 15 septembre de 10h à 16h. Venez découvrir l'ambiance chaleureuse et les nombreux services disponibles dans les 25 résidences Cogir de la grande région de Montréal. Une visite vous charmera. Soyez des nôtres aux portes ouvertes des résidences Cogir le dimanche 15 septembre dès 10h. Consultez porteouvertecogir.ca afin de connaître les résidences participantes. Aux résidences Cogir, je me sens vraiment chez moi.
Je sais pas si pour vous, le mois de septembre est un peu tristounet, mais attention, on a ce qu'il faut pour vous remonter le moral. Salut tout le monde, ici Mélanie Gagné.
Et Stéphane Richard.
C'est le grand retour du déstockage annuel Trévis à l'usine de fabrication de Mirabel. Ça, c'est notre grande fête du mois de septembre. C'est l'événement de l'automne, Stéphane, avec nos plus bas prix de l'année.
Et on va préparer la prochaine saison de baignade. Par contre, ce sera extrêmement festif sur place. Il faut le savoir d'avance. Les clowns, maquillage pour enfants, barbecue, on va s'amuser et on vous attend, tu l'as dit, pour les plus gros rabais.
Vous voulez une piscine? C'est le meilleur moment de l'année. On les a en stock. Ce sont les plus bas prix. On est prêt à l'installer chez vous. Par exemple, notre piscine creusée jusqu'à 6 000 $ de rabais. Le chauffe-eau est gratuit. C'est un cadeau et ça peut prolonger les belles journées de baignade comme là jusqu'en septembre. Là.
Tellement! Et aussi jusqu'à 6 000 $ de rabais sur les spas, plusieurs modèles dans l'usine et livraison rapide, c'est garanti.
C'est le grand déstockage annuel de l'usine de fabrication Trévis à Mirabel. Ça commence vendredi et tout le week-end.
On s'est demandé ce qui te convaincrait de venir travailler en concessionnaire automobile. Sûrement qu'on offre des très bonnes conditions, que les horaires sont vraiment flexibles, que l'ambiance de travail est tripante. Tu sais, un milieu ça coche. Mais tout le monde doit te dire ça. À place, on va te dire ce que nous, on cherche. Des gens ambitieux, passionnés et qui ont de la drive. T'as même pas besoin de triper ses chars. Si ça, ça te parle, c'est toi qu'on veut. Rejoins un milieu qui avance et postule sur le site de Ma Carrière en concessionnaire.
Plus on en sait sur l'immobilier, mieux on peut gérer toutes les situations qui s'y rattachent. Écoutez Les Dessous de l'immobilier, animé par Mélanie Bergeron et Jeffrey Soubrani, le samedi 11h.
Au 98.5, Montréal.
L'inimitable. La chronique financière est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, les conseillers de Desjardins peuvent vous accompagner dans votre parcours financier.
Économie, maintenant.
Voici Michel Boisvert.
Salut Michel.
Bonjour Philippe.
Alors, j'ai reçu il y a un moment le ministre démissionnaire de l'économie, Pierre Fitzgibbon. Tu as écouté l'entrevue. Comment juges-tu ses propos quelques minutes plus tard?
Ben, je pense que c'est à l'image de l'homme. Il était exactement ce qu'il a toujours été, franc. Il n'esquive pas les questions. confiance dans son bilan. Il a ramené, moi j'ai bien aimé quand il est revenu sur la filière batterie, rassurant. En tout cas, lui, il y croit. Puis c'est ce que je disais hier, c'est une stratégie de long terme. Il faut vraiment voir comment on positionne le Québec. Moi, j'ai beaucoup appris lorsqu'il est revenu sur le financement. En tout cas, moi, personnellement, j'avais pas compris toutes ces nuances-là. C'est toujours très, très complexe, ces montages financiers-là. Et je pense que ça aussi, il a remis les pendules à l'heure. Ce que j'aurais aimé qu'on parle davantage, parce que, bon, on a beaucoup parlé de la filière batterie, évidemment, parce que c'est énorme. Il y a le projet de loi qui va être à l'étude sur l'énergie. Mais il y a aussi toutes les zones d'innovation que le ministre Fitzgibbon a lancées. Et il y a de très beaux succès. Je pense, par exemple, à la zone quantique qui est à Sherbrooke. L'Université de Sherbrooke est reconnue dans le monde pour son expertise dans le quantique. Et quand on parle de quantique, on parle vraiment du futur. Et ça aussi, moi, ce que j'aimais dans la façon, dans la vision de Pierre Fitzgibbon, c'était qu'il voulait vraiment positionner le Québec dans les créneaux d'avenir. Et il prenait le temps de le faire, il bâtissait. Et vraiment, la zone quantique, moi, je la connais bien parce qu'il y a eu beaucoup de partenariats avec des entreprises françaises. On a réussi à créer des liens. Il y a des entreprises françaises qui sont venues s'installer ici. Il y a des chaires de recherche qui sont liées entre les grandes universités françaises et l'Université de Sherbrooke. Donc, je la connais bien. Et ça, quand on amenait des Français visiter la zone quantique de Sherbrooke, ils revenaient avec des étoiles dans les yeux en disant « Wow, le Québec se positionne vraiment dans un créneau d'avenir. » Et ça, c'était le but des zones d'innovation. Il y a celle de Sherbrooke, il y en a une à Bromont, il y a la transition énergétique dans toute la région de Bécancour, etc. Une autre de l'aérospatiale, et je pense que d'autres arriveront, mais ça aussi, ça fera partie du bilan de Pierre Fitzgibbon.
C'est drôle ce que tu dis, qu'il mettait les choses en perspective sur la durée, hein, aller dans le temps. Et c'est là que je l'écoutais quand il disait, écoutez, quand même qu'il y a un retard de 12 à 18 mois pour Nordvolt sur un horizon de 35 à 50 ans, au fond, ça ne change pas grand-chose. Et il a raison. Il a raison. Sauf, Michel, qu'en politique, ouais, c'est pas comme ça que les choses fonctionnent. En politique, il y a des élections. Là. Il va y avoir des élections dans 2 ans. Si le gouvernement de la Coalition Avenir Québec de François Legault se présente en élection, puis que le projet de l'usine de Nordvolt, il n'est pas encore démarré parce que Nordvolt hésite encore, puis que le 12 à 18 mois de retard est devenu le 18 à 36 mois de retard, politiquement, là, quand même que M. Legault irait reprendre l'argument de M. Fitzgibbon de dire, écoutez, un délai de 3 ans sur un horizon de 35 ans, c'est rien, ça ne l'aidera pas beaucoup pour la campagne électorale.
Ça. Et c'est pour ça qu'on disait que Pierre Fitzgibbon n'était pas un politicien. Mm. Il est rentré avec une vision d'amener le Québec ailleurs. Mais ce n'est pas... Et d'ailleurs, il ne parle pas comme un politicien. Il n'a pas la langue de bois. Et c'est très vrai ce que tu dis. C'est peut-être un peu ça qui fait qu'il y a une espèce de manque de motivation. Du moins, que ce n'est pas un politicien. C'est quelqu'un qui est venu en politique pour faire des changements. Il y a donné 6 ans. Et bon, il a l'impression qu'il a donné ce qu'il fallait donner. Mais effectivement, un argument comme celui qu'il nous a donné tient la route logiquement. Mais dans une élection et en politique, c'est plus difficile.
C'est autre chose. Les réalités ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc, pour juger de son travail, il faudra sans doute attendre des années, des années, des années. Et peut-être qu'on dira dans 25 ans qu'il a été un précurseur. Tu sais, je regarde.
C'est comme les grandes centrales hydroélectriques.
Ben voilà, c'est exactement là que je m'en allais. Regarde Robert Bourassa aujourd'hui. Quand on traite du bilan économique de Robert Bourassa, c'est génial. Mais à l'époque, il y avait quand même beaucoup de contre. Les chantiers, c'était pas toujours facile, c'était risqué. Est-ce qu'on avait les compétences pour faire ci, pour faire ça? Tu sais, c'était pas évident. Alors, il y a une prise de risque. Maintenant, on ne connaît pas encore le résultat. Avec les barrages hydroélectriques, ça a fonctionné. On ne sait pas si ça fonctionnera pour la filière électrique. Et là, ben, on verra bien. Et toi, tu connais, on verra bien ce qui va arriver. Tu connais le milieu des affaires au Québec. M. Fitzgibbon dit qu'il va respecter le code de déontologie, là, attendre au moins 2 ans avant de travailler ou de représenter ou d'être, j'imagine, sur le conseil d'administration d'une entreprise qui fait affaire avec le gouvernement. Mais est-ce que tu penses que les entreprises de Québec Inc. vont faire la file pour pouvoir l'attirer à titre de conseiller ou sur des conseils d'administration?
Ah, certainement. Certainement. Bon, premièrement, c'est un financier hors pair. C'est un homme, il était très, très apprécié. Et il a siégé sur le conseil de la Caisse de dépôt. T'sais, avant d'entrer en politique, il était déjà très sollicité. C'est évident que cet homme-là va... S'il veut les offres vont pleuvoir.
Ouais, je pense pas qu'on va le voir aux ex, lui. C'est pas vraiment le style d'aller à la télévision pour commenter. Non, ça serait quand même, ça serait une nouvelle étonnante, hein?
Oui.
Commentateur
oui,
là, politique, non, je pense pas que ça sera le choix. Oui, contre-emploi. Ça sera pas le choix de Pierre Fitzgibbon. En terminant, Michel, la Banque du Canada qui a abaissé, pardon, son taux directeur d'un quart de point encore aujourd'hui. Il est maintenant rendu, là, ce taux directeur à 4,25%.
Oui, ben c'est d'excellentes nouvelles, parce qu'on sait que les taux préférentiels des banques s'ajustent par rapport au taux directeur et que c'est les taux des hypothécaires variables s'ajustent par rapport au taux préférentiel. Donc, c'est toute une cascade. Ça veut dire que du côté des taux hypothécaires variables, on prévoit une baisse. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est clair qu'il y aura d'autres baisses. On est parti dans un cycle de baisse. L'inflation n'est plus une priorité.